Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Ish Mantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans le débat BBC Afrique, Africa Radio. Liliane Niacha, bonjour, j'espère que vous allez bien.
Bonjour Saint-Ish, merci de prendre mes nouvelles. Je vais bien et j'espère que vous aussi. Et nous allons commencer notre premier sujet avec le Mali. Le coup de force des militaires qui a conduit à la démission du président Bandao et du premier ministre de transition Mokhtar Ouane a été condamné par la communauté internationale, de même que les acteurs locaux. Pour autant, la junte militaire a-t-elle perdu sa marge de manœuvre ?
Le colonel Assimi Goïta tient de nouveau les rênes du Mali, et ce malgré les condamnations de la CEDEAO, de l'Union africaine ou encore de l'ONU qui évoquent la possibilité de sanctionner le pays. Au plan national, ce deuxième coup de force de l'armée en moins d'un an divise dans les rangs des partis politiques et la société civile, laissant planer l'incertitude sur la suite de la transition, Liliane.
Et au Bénin, Patrice Talon, investi dimanche dernier, a reconduit mardi presque la totalité de son gouvernement tout en supprimant le ministère de la communication. Quelles seront les priorités de cette équipe gouvernementale ?
23 ministres reconnus presque tous comme des technocrates dans une équipe que le président Talon a décrit comme un gouvernement de réalisation pour un mandat qu'il voudrait hautement social, Liliane.
Un grand pas dans le rapprochement entre la France et le Rwanda cette semaine. Emmanuel Macron était à Kigali jeudi. Quels sont les enjeux de ce rapprochement franco-rwandais ?
Une visite historique avec à la clé un président français qui reconnaît la responsabilité de la France dans le génocide rwandais de 1994. Les deux pays qui annoncent également de nombreux accords économiques et la nomination d'un ambassadeur français bientôt à Kigali. Qu'est-ce que cela implique ? Analyse et commentaires à suivre avec notre panel, Liliane.
Et on va d'abord présenter nos invités. Donc, il s'agit de Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali. Monsieur le Premier ministre, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes en ligne de Bamako et deux confrères sont avec nous, Agapit Napoléon Mafourikan, journaliste et analyste politique béninois. Bonsoir, bonjour chers confrères.
Bonjour chers confrères, bonjour monsieur le Premier ministre.
Et vous êtes également directeur de la télévision iTélé au Bénin. Et on sera rejoint dans quelques instants, on l'espère, par Pape Alioune Sarr, journaliste sénégalais à ITV. Petite fiche d'identité de notre grand témoin, Moussa Mara. Vous avez 46 ans, marié et père de 4 enfants. Après votre baccalauréat en 1990, vous allez en France poursuivre vos études supérieures où vous obtenez en 2000, un diplôme d'expert comptable. Vous êtes professeur d'enseignement supérieur, membre du jury du diplôme d'expertise comptable de l'UEMOA, formateur agréé à l'école régionale de la magistrature de l'OADA et au CESAC de Dakar et également président du conseil d'administration de l'école supérieure de gestion. Sur le plan politique, vous avez débuté votre carrière en 2007. Vous êtes ensuite élu maire de la commune 4 du district de Bamako, la capitale malienne, et nommé par la suite ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville. En 2014, précisément le 5 avril, vous êtes nommé Premier ministre en remplacement du démissionnaire Oumar Tatamli. Vous deviendrez ainsi, à 41 ans, Monsieur Moussa Mara, le plus jeune Premier ministre de toute l'histoire, en tout cas l'histoire jusqu'à présent, du Mali. Et vous êtes également, Monsieur Moussa Mara, chevalier de l'Ordre national. Saint-Ish, à vous pour le Mali.
Bis repetita au Mali. Le président et le premier ministre du pays arrêtés, conduits au camp de Kati à quelques kilomètres de Bamako, la capitale, puis intervient l'annonce de leur démission et l'armée prend les rênes du pays. Le scénario a été presque identique lors des deux coups de force en août 2020 et également ce 24 mai dernier, soit moins d'un an après. L'armée explique son action parce que le conseiller principal du chef de la junte, Assimi Goïta, a décrit, je cite, comme le non-respect de la charte de transition et l'incapacité des personnalités arrêtées à mener un dialogue productif avec la classe politique et la société civile. Fin de citation. Les condamnations, vous l'avez dit, au plan international sont unanimes. Dans la foulée, la CEDEAO a dépêché à Bamako Goodluck Jonathan, le médiateur dans la crise. Messieurs Bandao et Mokhtar Ouane sont libérés et présentent leur démission à 9 mois de la date prévue pour la fin de la transition. Le pays se retrouve donc de nouveau dans l'incertitude, surtout surtout que les organisations internationales brandissent les menaces de sanctions. Et à l'heure où nous enregistrons ce débat, ce vendredi, la CEDEAO se réunit pour se prononcer sur la situation malienne, justement. Monsieur Moussa Mara, vous êtes l'un des chefs de partis politiques qui avait clairement condamné ce coup de force, ce second coup de force de l'armée. Première question, qu'est-ce que vous espérez du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali?
Je pense que et moi et l'ensemble de la classe politique, mais aussi sans doute des autorités actuelles, nous espérons que le pays pourra échapper aux sanctions de la CEDEAO et qu'un accord pourra être convenu entre la CEDEAO d'une part et la junte militaire aujourd'hui par rapport à la conduite de la transition, la poursuite de la transition sous l'égide de leadership civil, parce que tous les communiqués que vous avez dû voir, aussi bien du Conseil de sécurité comme de l'Union africaine, sont revenus sur la nécessité absolue que la transition soit dirigée par des civils. Et à mon avis, selon les règles de la CEDEAO, ça devrait être aussi le souhait de la CEDEAO. Donc à nous maintenant, Maliens, mais aussi à la junte, d'avoir l'intelligence de comprendre cela et de travailler avec nos partenaires pour convenir d'un accord qui puisse satisfaire ces exigences. Donc moi j'espère que le sommet va ouvrir cette perspective et qu'ensuite il y aura des discussions pour arriver à cette entente. J'espère. Alors, cela sincèrement parce que ces sanctions seraient très très difficiles à supporter par notre pays.
Mais quel gage aujourd'hui est-ce que le Mali peut donner à la CEDEAO et à toute la communauté internationale qui a les yeux rivés sur lui?
Comme vous l'avez mentionné, moi je fais partie de ceux qui ont condamné le coup de force du lundi et dès lundi soir. L'un des rares leaders de notre pays à aller dans ce sens-là. Et donc moi, ma position, elle est connue, hein, je la réitère. Il faut que nous puissions sortir de cette situation rapidement et que la transition puisse poursuivre son cours. En aucune manière, on ne peut accepter ce coup de force. Alors. Maintenant, ceux qui sont auteurs de ce coup de force et qui, de fait, aujourd'hui sont à la tête du pays, c'est à eux d'avoir toujours la pleine conscience des difficultés qu'ils plongeront, qu'ils mettent dans notre pays, des difficultés dans lesquelles nous nous retrouverons si nous n'évoluons pas, s'ils n'évoluent pas. S'ils persistent dans la tentation de garder le pouvoir, je pense que les lendemains risquent d'être difficiles.
Alors. Monsieur le Premier ministre, vous dites que vous êtes parmi les rares et premiers hommes politiques maliens à condamner ce coup de force et en même temps vous souhaitez que le sommet extraordinaire des chefs d'État prévu dimanche prochain n'aboutisse pas à des sanctions contre le Mali. Comment pouvez-vous condamner ce qui est un coup de force et en même temps demander à la CEDEAO de ne pas prendre la décision qui est consécutive à un tel acte politique?
Je comprends, mais la diplomatie, elle est évolutive. La CEDEAO, à mon avis, elle connaît bien la situation de notre pays. Il faut que les positions de principe soient réaffirmées et qu'ensuite des discussions soient engagées. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un médiateur.
Quand vous dites que les positions de principe soient réaffirmées, qu'est-ce que cela signifie?
Ben, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'en aucune manière on peut accepter d'avoir une transition gérée par des militaires. En aucune manière on peut avoir d'ailleurs un régime géré par les militaires, que ce soit une transition ou un pouvoir élu. C'est la raison pour laquelle il y a des protocoles, il y a des règles internes. Nous-mêmes ici au Mali, cela n'est pas possible.
Et cela donc, permet justement, ce protocole dit exactement que si en cas de coup d'État, le pays doit être suspendu de la CEDEAO. Et que les sanctions doivent suivre.
La suspension est le préalable. Les sanctions dont je parle, c'est pas des sanctions du type suspension. Les sanctions dont je parle, c'est des sanctions du type embargo, avec la fermeture des frontières et autres qui feront souffrir les populations. C'est pourquoi je dis réaffirmer les positions de principe, suspendre le pays, ça c'est des choses qui vont pratiquement être décidées automatiquement. Mais il faut ouvrir la plage aux discussions. Moi, je crois encore que des discussions sont possibles. Je crois encore que le leadership militaire qui est à la tête de notre pays est capable de comprendre. Ils l'ont compris il y a 8-9 mois, en août et en septembre dernier. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le comprennent pas maintenant. Et puis ensuite, il y a des dynamiques internes qui sont en cours. Il y a des autorités religieuses traditionnelles, des personnalités qui sont encore en train d'essayer de leur parler.
Les discussions sont en cours également au plan national. Selon des informations, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, est en train de consulter certains acteurs au plan national, notamment le mouvement M5-RFP qui est pressenti pour entrer dans un éventuel nouveau gouvernement. Est-ce que vous-même, M. Marat, vous avez été approché? Et est-ce que vous seriez partant pour intégrer un nouveau gouvernement?
Aujourd'hui, dans moins d'une heure, il y a une rencontre qui est prévue entre le vice-président de la transition et la classe politique. Moi, mon parti va participer à cette rencontre. Mais on va à cette rencontre pour réaffirmer les positions que je suis en train de vous dire là. Je ne pense pas que nous soyons à l'étape où il faut essayer d'avancer en interne en faisant fi de principes que nous avons foulés aux pieds. Ça, je pense que c'est d'aller dans la mauvaise direction. On ne peut pas accepter le fait accompli de ce qui s'est passé lundi. Il faut que les leaders militaires le comprennent. En tout cas, c'est notre position à nous au niveau de notre parti. Moi, je ne suis plus président de mon parti, c'est pourquoi quelqu'un d'autre ira à la rencontre. Mais mon parti est sur cette ligne, c'est que la transition doit continuer son cours avec des autorités civiles, si possible, et ça c'est ma position personnelle. Le président de la transition qui est encore Bandao, parce que la démission dont on parle est une démission contrainte qui a été rejetée par le Conseil de sécurité par avance d'ailleurs. Donc si possible le président de la transition, sinon un autre président civil, c'est ce qui doit nous amener dans la bonne direction de la transition. Monsieur, si les autorités militaires souhaitent conduire la transition, je pense que le Mali aura des lendemains difficiles. Ça, c'est mon opinion personnelle.
Pour être très clair, pour que les auditeurs comprennent bien quelle est votre position, quel type ou quelle est la nature des sanctions que la CEDEAO doit prendre dimanche prochain, sachant que le vice-président Assimi Goïta a déjà déclaré qu'il entend lui-même poursuivre la fin des 9 mois restants pour la fin de la transition?
Je pense que cette question, vous devrez la poser plutôt à la CEDEAO. Moi, je ne suis pas dans les arcanes de la CEDEAO. Ce que je dis simplement, en tant que, je vais dire, leader politique de notre pays, c'est que ce qui s'est passé lundi, très clairement, est à condamner. Et à condamner le plus fermement possible parce que ça nous ramène en arrière.
Ça a déjà été condamné. On parle maintenant des sanctions. Vous dites que ça doit être condamné,
madame,
et ne doit pas
si
rester
vous,
impuni.
Si vous permettez que je termine, je pense qu'on se comprendra mieux. Donc, il faut condamner cela fermement. Et mon opinion, je vous l'ai aussi dit, c'est que nous revenions à la situation avant le coup de force. C'est que le président de la transition, qui est Bandao, continue à diriger le pays pendant cette période.
Je vous ai également dit, monsieur le Premier ministre, que ce scénario-là n'est pas pour l'instant prévu, puisque le vice-président Assimi Goïta, le colonel, a dit clairement qu'il veut poursuivre la transition. Donc il n'est pas question, selon lui, qu'on nomme un président civil.
Si vous me posez des questions, il faut me laisser répondre à ces questions. Et c'est à moi que vous posez la question, pas au vice-président de la transition à la CEDEAO. Donc moi, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je donne mon opinion. Mon opinion est que la transition soit conduite comme elle était avant. Ça, c'est mon opinion à moi. Maintenant, la réalité, c'est quoi? C'est que nous avons une partie de la hiérarchie militaire, l'ancienne junte militaire, qui a perpétré ce qui est clairement un coup d'État. Et ils entendent diriger le pays. Ça, je vous comprends et je suis tout à fait d'accord avec vous. Si cela continue et si cela réussit, je pense que le pays va vers des difficultés. Aujourd'hui, ils vont rencontrer la classe politique. Il y a certains acteurs de la classe politique qui sont comme nous, qui vont leur dire que cela n'est pas possible. Il y aura sans doute d'autres qui diront que cela est possible. Donc nous, on est ni dans l'hypothèse d'entrer dans un gouvernement, dans l'hypothèse d'envisager même un gouvernement. Nous, on est à l'hypothèse où il faut que la transition continue son cours comme cela a été demandé par le Conseil de sécurité, par l'Union africaine, et ce sera sans doute le cas par la CEDEAO. Maintenant, ce que la CEDEAO va envisager comme sanction, cela appartient à la CEDEAO.
Liliane, nous allons écouter l'avis de notre confrère Agapit Napoléon Maforikan, qui est en ligne depuis Cotonou, au Bénin. Agapit?
Oui, je suis à l'écoute.
Alors, vous suivez, je suppose, comme nous tous, hein, cette actualité au Mali qui évolue très rapidement. Aujourd'hui, la question, c'est, avec toutes ces condamnations au plan international, quelle est la marge de manœuvre qui reste à la junte militaire et surtout au vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta?
Alors, pour mieux comprendre ça, pour mieux analyser, il faut peut-être voir un peu l'état de la troupe, quelle est la situation au niveau de l'armée ou de la hiérarchie militaire, parce qu'en réalité, les civils ont démissionné, il faut pas tourner autour du pot. J'écoutais l'ancien ministre, l'ancien premier ministre, en l'écoutant, oui, c'est des projets de principe, mais après, quel est le comportement de l'élite malienne, de la classe politique malienne? Est-ce qu'elle est consciente des défis à relever? Il ne s'agit pas de condamner ou de s'appuyer sur les organisations internationales pour dire « on va condamner ». Mais depuis, en 2011-2012, on a une situation déjà. Le pays fait face à une situation délicate au niveau, au nord, et avec les rébellions. Quelle est la prise de conscience? Quel est le niveau de prise de conscience de l'élite? Quand Ibeka est arrivé, tout le monde était content? Alors, donc, finalement, on l'a contraint à la démission.
Mais est-ce que ce que vous dites, Agapit, justifie qu'on mette un frein ou alors qu'on s'en prenne à une transition qui est en cours? La transition, elle est en cours.
Oui, elle est en cours, mais est-ce que les termes de transition ont été respectés par toutes les parties? Voilà la question. Quel était le contenu de la transition? Est-ce que les termes ont été respectés par toutes les parties? Je pense que puisqu'il y a un médiateur, le président de Golden Jonathan est sur place, nous sommes vendredi, il y a des réunions qui sont encore prévues, il serait intéressant d'écouter le président de transition qui est démissionnaire, qui a réussi à... Donc il démissionne exactement comme Ibeka l'a fait il y a quelques mois. Donc la question est de savoir, est-ce que les termes de la transition ont été respectés? Si les termes n'ont pas été respectés, qui ne l'a pas respecté? Pourquoi ça n'a pas été respecté? Donc, dès lors, la position de Goïta, qui était déjà à la manette il y a 8 mois, il y a quelques mois, doit pouvoir être entendue, et peut-être la classe politique, une nouvelle fois, réunie pour pouvoir savoir où aller. Quelle est la feuille de...
Excusez-moi, Agapit, juste pour relancer ce que vous venez de dire, donc pour vous, si les termes de la transition n'étaient pas respectés, il revient donc à l'une des entités de cette transition, c'est-à-dire les militaires, à jouer les gendarmes de ce texte en imposant la démission à un président de transition et un premier ministre?
Cher consoeur, si on a déjà validé la démission de Ibeka sous contrainte il y a 8 mois, les mêmes codes pouvaient produire les mêmes effets. Et comme il y a quelques années encore, on a fait la démission de ATT. Je pense qu'il y a une situation de fait qu'on a acceptée au fil des ans ou au fil du temps qui fait école. C'est ça le drame. C'est-à-dire qu'en acceptant Ibeka il y a 8 mois, qui peut démissionner sous pression, on ne peut pas aujourd'hui dire que... On ne peut pas aujourd'hui revenir en arrière au risque d'être jugé par terre ou bien de ne pas être cohérent en soi. Ensuite, les forces en présence, n'oubliez pas que c'est un rapport de force. Et en la matière, le président de transition, qui a pris sur lui la responsabilité de faire un nouveau gouvernement, je pense que en le faisant et en éjectant un certain nombre de personnes, en tout cas, en créant un déséquilibre qui n'est pas favorable à l'autre camp, je pense qu'il a créé une situation de...
Deux ministres majeurs issus de la junte.
Voilà.
Alors, Liliane?
Oui, on va peut-être marquer une pause, Saint-Tichy. On laissera le soin, évidemment, à notre invité, l'ancien Premier ministre Moussa Mara, de réagir aux propos de notre confrère qui, lui, semble comprendre et justifier le coup de force de cette semaine au Mali.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Tichy Mantar-Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
Et notre grand témoin cette semaine est l'ancien Premier ministre malien Moussa Mara. Il est en ligne de Bamako et nous avons également en ligne de Cotonou au Bénin le journaliste Agapit Napoléon Mafourikan qui est également directeur de la télévision ITélé. Et vous pouvez écouter ou réécouter cette émission quand vous le souhaiterez sur nos sites internet africaradio.com et bbcafrique.com et nous faire part de vos réactions sur la page Facebook. facebook.com/débat BBC Africa Radio. Saint-Tiche, on va laisser maintenant, je le disais, le soin à notre invité de répondre à ce que a dit notre confrère tout à l'heure. Si la charte de la transition n'était pas respectée, on pourrait donc comprendre pourquoi les militaires ont décidé de ce coup de force, Monsieur Marin.
Madame, ce qui s'est passé le lundi n'a strictement rien à voir avec la charte de la transition et encore moins avec les termes de la transition. Je rappelle que celui qui dirigeait la transition ou qui dirige la transition Bandao, il dirige avec les militaires depuis septembre 2020. Il n'y a jamais eu le début du commencement d'une divergence sur quoi que ce soit. Ce problème, il est aussi simple qu'un problème de poste. Le président de la transition et son premier ministre ont décidé de ne pas reconduire dans le gouvernement deux des membres de l'ex-junte. Et le coup de force s'explique par ça. Toute autre explication, ce serait simplement essayer de trouver des justifications qui n'ont pas de sens. Donc c'est un problème de poste. Ce n'est pas un problème de terme de la transition ou de charte de la transition. Ça, on pourra entrer dans le détail et expliquer. Donc c'est un problème de poste, c'est un problème de place. Et là où je rejoins notre ami du Bénin, c'est que cette situation est une honte pour nous. Et nous devrons tous le comprendre, les élites de notre pays, quelles qu'elles soient. C'est une honte parce que notre pays aujourd'hui est en train d'être soutenu par la communauté internationale, sur le plan sécuritaire évidemment, sur le plan politique, sur le plan économique et autres. Et au même moment, plutôt que nous tous nous nous consacrions à ça, que les militaires se consacrent aux aspects sécuritaires, que d'autres se consacrent à d'autres aspects, nous nous battons pour des postes.
Alors, vous voulez, vous ça, rejetez, vous rejetez donc tous les arguments qui ont été évoqués par le conseiller principal d'Assimi Goïta qui parle de mauvaise gestion financière, de blocage des programmes d'élection. Il y a une grève qui était également prévue par la plus grande union syndicale dans le pays. Tous ces arguments, selon vous, ne justifient en rien ce qui s'est passé.
Si vous avez le temps, on peut prendre un à un les arguments avancés. Sur la grève, c'est un processus qui remonte à 2017. Les revendications de l'UNTM, la centrale syndicale, à 80% sont des revendications qui sont là depuis 2017. De consensus en consensus, les différents gouvernements n'ont fait que reporter les échéances. Et au début de la transition, la junte elle-même a eu des discussions avec l'UNTM pour conclure un accord qui n'a pas été respecté encore aujourd'hui, qui figure dans les doléances qui sont soumises à la centrale syndicale. Donc ce n'est pas du tout cela. Comme je vous l'ai dit, il faut trouver des justifications à un acte. Mais ce acte est motivé uniquement par une question de poste.
D'accord. Soit.
Lilian, je vous signale que notre confrère du Sénégal est...
Je crois qu'on va lui donner la parole dans un instant, sachant qu'il nous reste à peine 3 minutes sur ce sujet. Alors, les Maliens semblent, monsieur le Premier ministre, pour l'instant, un peu regarder cette situation avec une certaine résignation. Est-ce que vous pensez que le coup de force des militaires est vraiment populaire? Parce qu'au moment où on parle, il n'y a pas eu de grosse mobilisation des populations maliennes contre ce qui s'est passé lundi.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est simplement de l'indifférence. Les Maliens sont en grande partie ni pour ni contre. Ce sont des révolutions de palais qui ne leur touchent pas au quotidien. Il faut comprendre vraiment cela. Le dernier coup est intervenu dans un cadre insurrectionnel où le pouvoir était combattu dans la rue longtemps. C'est pourquoi ce coup a été supporté par les populations. Ce coup est perçu comme une révolution de palais, c'est-à-dire les grands d'en haut et d'en haut qui se battent entre eux, et ça fait l'indifférence des populations. Mais nous qui sommes dans l'élite, nous devrons prendre nos responsabilités et savoir que l'avenir du pays se joue aussi aujourd'hui.
Est-ce que vous pensez qu'on
ne peut pas, pour des questions de poste, remettre en cause cet avenir?
En cas de sanction de la CEDEAO dimanche prochain ou des plus fortes qui toucheraient les populations, vous pensez qu'elles réagiraient différemment?
Oui, mais il ne faut pas qu'on en arrive là. C'est ce que je vous ai dit au début. Je pense que la diplomatie a encore sa place. La CEDEAO doit ouvrir cette perspective. En tout cas, on demanderait ça à la CEDEAO. Dans le passé, il y a eu une délégation des chefs d'État qui est venue au Mali. Il y a eu des discussions au niveau ministériel, au niveau chef d'État. Tout ça, ce sont des possibilités qu'il faut utiliser avant de passer à l'étape de sanctions, qui, encore une fois, comme je le dis, ne serait préjudiciable, surtout que pour les petites personnes, les petits gens et ceux qui sont les plus pauvres, malheureusement.
Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous allons écouter la réaction, l'analyse de notre confrère sénégalais, Pape Alioune Sarr.
En quelques mots, on a pris beaucoup de retard, Pape.
Oui, bonjour mesdames, bonjour à tous. Ce qui est important, c'est l'analyse un peu de l'ancien Premier ministre, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de transition. Toute transition nécessite un consensus, et tout le monde sait qu'au Mali, le consensus a été raté. Ce qui se passe même au Mali est innommable. L'ancien Premier ministre a parlé de honte. Honte, oui, parce que le Mali aujourd'hui ne fait ni son histoire et subit la géographie que aujourd'hui est un vaste terreau pour le djihadisme. Mais aujourd'hui, nous qui sommes journalistes, avons même de la peine à nommer ce qui se passe au Mali. Coup d'État, non, parce que le Mali n'a pas d'État. Coup de force, non, parce que la force appartient toujours à Assimi Goïta. Moi, je pense qu'en Afrique, c'est la première fois qu'on assiste à un licenciement d'un président de transition. Je pense que c'est un licenciement. Et j'utilise le mot licenciement parce que je pense aujourd'hui le Mali est transformé en une vaste entreprise dirigée par la junte militaire et que le fief se trouverait au camp de Kati. Le problème est simple et l'ancien Premier ministre vient de le dire, c'est un problème de poste, autrement dit de privilège. Et quand on parle de privilège, on personnifie le débat alors que le Mali appartient
juste
à tout le monde.
Je peux me permettre de préciser que vous parlez du problème de poste, le Premier ministre l'a dit, mais beaucoup de Maliens sont convaincus qu'en réalité, il y a une lutte d'influence entre la France et la Russie qui chacun ou chacune ont leur soutien parmi les dirigeants aujourd'hui divisés de la transition.
Moi, je ne veux pas que l'on mette la communauté internationale, la France, la Russie, ces éternels causeurs de mal, comme on appelle ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème entre Maliens. Il ne faut pas chercher les faiseurs de troubles ailleurs. Il y a un seul faiseur de troubles et il s'appelle Assimi Goïta. Il faut savoir nommer les choses parce qu'on mal nomme une chose et ajouter au malheur à ce monde. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça passe? C'est qu'il y a un homme qui s'appelle Assimi Goïta, qui ne veut pas que quelqu'un lui fasse barrage sur le chemin qui mène au fauteuil présidentiel. Et l'erreur aujourd'hui, c'est de tomber dans le piège aujourd'hui du vocabulaire orchestré par la junte militaire. Ibeka n'a pas démissionné, il y a eu un coup d'État. Le président de transition n'a pas démissionné, il y a eu un coup de force. Et je pense que ces sortes de démissions par contrainte ne peuvent pas aujourd'hui incarner ou bien matérialiser ce qui se passe au Mali. Et maintenant, ce qui est dommageable, c'est que le Mali se recroqueville sur lui-même. Et quand on dit que le Mali se recroqueville sur lui-même, c'est un vaste terreau pour les djihadistes qui peuvent tout simplement profiter de l'instant pour commettre un peu leur forfait parce qu'un État sans une force de contrainte majeure est aujourd'hui exposé à toute forme de dérive.
Sainty, je sens qu'il me semble que vous avez une toute dernière question, même si le temps est largement dépassé sur le Mali, peut-être à notre invité.
Alors, Monsieur le Premier ministre, vous dites que vous n'êtes pas partant pour la création d'un nouveau gouvernement. Et on reste dans les spectatives quand même. Quelle est la chance aujourd'hui pour le Mali de se relancer?
La chance pour nous de nous relancer, elle est pas aussi importante qu'il y a une semaine. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'il y a des faits qui sont en train de s'installer tranquillement et nous avons dans notre leadership des acteurs politiques et de la société civile qui soufflent sur les braises parce qu'ils sont simplement en train de chercher eux aussi des postes. C'est ce qui est dommageable. Mais je fais encore confiance en notre capacité de sursaut et d'abandon de soi et de ses intérêts pour mettre l'intérêt de notre pays au-dessus. Merci. Et d'arriver à un consensus qui puisse permettre à la transition de continuer son cours sous le leadership de civils et dans le délai imparti.
Merci.
On avait déjà un chronogramme et un programme. Bon, donc je pense qu'on peut y arriver encore.
Merci, prochain sujet.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Avec notre grand témoin, l'ancien Premier ministre du Mali, Moussa Mara, et deux journalistes, Pape Alioune Sarr de ITV à Dakar au Sénégal et Agapit Napoléon Mafourikan, directeur de la télévision ITV à Cotonou au Bénin. Cap donc justement sur le Bénin, deux jours après son investiture dimanche pour un second mandat de 5 ans, le président Patrice Talon a procédé à un réaménagement du gouvernement mardi, composé de 23 membres. L'ancienne équipe pour l'essentiel a été maintenue avec cependant 3 ministres sortants et 2 nouvelles figures. On retiendra surtout la suppression du ministère de la Communication dont le titulaire était également porte-parole du gouvernement Alain Orunla. Il a été remplacé par Wilfried Léandre Oumbédi, jusque-là directeur de la Communication à la présidence. Je commence par vous, Agapit. Comment analysez-vous le choix fait par Patrice Talon de garder l'essentiel de son équipe gouvernementale? Êtes-vous surpris? Alors,
nous avons perdu Agapit.
Bon, on va peut-être commencer par notre invité. Monsieur Moussa Mara, cette décision de Patrice Talon de maintenir son gouvernement?
Vous savez, dans nos pays, le président est quand même, je dirais, le premier, le seul, le décideur principal. S'il est convaincu que son équipe est une équipe efficace, il n'y a pas de raison de ne pas reconduire l'équipe. Et je dirais quelquefois même la durée permet au ministre de se réaliser davantage et un gage d'efficacité. Le plus important, c'est de réaliser les aspirations du peuple et de mettre en œuvre le projet du président. Et dans ce projet, j'ai écouté son discours d'investiture. Il a mis un accent important sur le social, mais aussi sur la réconciliation, parce qu'il est bien conscient que son premier mandat a été un peu heurté. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, tout le mal qu'on souhaite à nos frères béninois, c'est que ce mandat soit un mandat apaisé de réconciliation et de progrès.
Pour certains, en fait, il s'agit de récompenser ces ministres pour leur loyauté, leur cohésion qui aura permis de conduire le processus électoral à sa guise. Mais vous venez de parler de réconciliation. D'autres Béninois, en revanche, évoquaient la possibilité d'entrer au gouvernement des opposants, peut-être justement pour apaiser le climat politique, mais ça n'a pas été le cas.
Ben, ça pourra venir. Le mandat, c'est 5 ans. Je pense que des discussions pourront être engagées et puis le moment opportun, le président pourra ouvrir le gouvernement à d'autres sensibilités pour donner un corps un peu plus consistant à la réconciliation. Je pense qu'il faut lui accorder le bénéfice du doute et suivre ce qui sera fait dans les semaines et mois à venir.
Lilian, nous avons récupéré notre confrère Agapit Napoléon.
Je vous le laisse, Saint-Tiche.
Alors, je vais rebondir justement sur votre deuxième question. Agapit, dans ce gouvernement qui a été presque reconduit, pas d'opposition, pas de représentant de l'opposition, vous, comment vous l'analysez?
Ben, de la manière la plus normale qui soit, si on doit retrouver l'opposition dans les gouvernements, on n'est plus en démocratie. Le système normal est que ceux qui gagnent le pouvoir se partagent les postes de responsabilité, l'opposition fait l'opposition et propose l'alternative pour ceux qui suivent. Donc la logique, c'est justement que ceux qui ont gagné les élections puissent être aux affaires et que l'opposition s'oppose. Et puis voilà.
Mais alors, quand on veut aller à la réconciliation nationale telle que souhaitée par beaucoup de Béninois, justement, est-ce que ce n'était pas une occasion de tendre la main à cette opposition et de l'associer à la gestion du pays?
L'opposition béninoise est à sa place. Il faut pour connaître la situation, pour bien comprendre la situation à Cotonou, il faut comprendre qu'il y a Il y a deux types d'opposition. Il y a une opposition républicaine qui participe au jeu républicain et il y a une opposition qui est dans l'extravagance, un peu dans l'outrance, et dans le jusqu'au boutisme. C'est cette opposition jusqu'au boutisme qui a rompu en 2019 les négociations devant permettre à tout le monde de participer aux législatives et qui a conduit à des législatives qu'elle-même a condamnées après en parlant de parlement monocolore. Il faut remonter en 2019 la situation de la mise en œuvre des réformes pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc, cette opposition radicale autour de l'ancien président de la République, justement, a été lâchée par d'autres partisans qui ont pu s'aligner et se mettre à jour vis-à-vis des nouveaux textes votés pratiquement à l'unanimité par l'ancien Parlement. Et donc, l'opposition républicaine aujourd'hui est représentée et dans la gestion des affaires de l'État, dans la mesure où la loi portant statut de l'opposition est mise en œuvre, le chef de file de l'opposition est nommé et donc était invité à l'investiture. Mais sa place n'est pas au gouvernement, sa place c'est de prendre des positions, c'est de proposer l'alternative. On ne peut pas parler de la démocratie pluraliste et faire des gouvernements d'union nationale. Du coup, on n'est plus en démocratie, on n'est plus en pluralisme, on est plutôt dans un régime de type monolithique où tout le monde participe. Il y a des courants qui participent un peu et ça et là. Ici, c'est différent. Mais... Donc, l'opposition béninoise est bien représentée dans au niveau du statut.
Vous dites dans la gestion de l'État, mais pas dans le gouvernement. Cela n'est pas nécessaire, selon vous. Ce sont vos mots. C'est ce que vous avez semblé dire, que ce n'est pas nécessaire qu'il y ait l'opposition représentée dans le gouvernement. Liliane, peut-être prendre l'avis de Papa Lyounsa.
Tout à fait.
Que nous avons perdu également des problèmes de ligne. Nous allons tenter de.
Je vais donc adresser ma question à notre confrère Agapit, avec lequel on reste. L'ancien premier ministre malien Moussa Mara Agapit tout à l'heure a dit, je ne sais pas si vous l'avez entendu, que peut-être Patrice Talon nommera bien de l'opposition ou fera entrer des opposants dans un prochain gouvernement. Vous vous dites que non, celui qui est vainqueur des élections doit gouverner. Mais en même temps, il y a l'Église catholique qui demande des actes pour résoudre la crise née des dernières élections. Quelle sera donc la stratégie de Patrice Talon, si ce n'est donc ce gouvernement possiblement d'Union nationale, pour arriver à cette réconciliation dont lui-même il a parlé?
Non, écoutez, au fait, il n'y a pas un problème de réconciliation réellement. Il y a un problème d'option. On ne pouvait pas continuer avec un certain nombre de schémas. Quand Patrice Talon est arrivé, il y avait des réformes qu'il fallait. Il est venu avec un projet de réforme, validé d'ailleurs par toute la classe politique globalement, puisque les réformes, le code électoral a été réformé pratiquement à 100%, la loi a été votée à l'unanimité par l'opposition et par la majorité, dans un parlement qui existait avant lui. L'achat des partis politiques a été voté pratiquement à une voix près. Mais c'est dans la mise en œuvre qu'il y a problème.
Donc, excusez-moi, Agapit, on a bien compris cet argument, vous l'avez dit tout à l'heure. Ma question était de savoir si l'opposition doit rester dans l'opposition et celui qui gagne, donc Patrice Talon, doit diriger avec ses amis politiques. Quelle option ou bien quelle piste peut-il ou doit-il adopter pour aller vers la réconciliation? Il y a quand même une crise politique née de la contestation des processus électoraux conduits ces dernières années au Bénin.
Non, il y a une frange, comme je dis toujours, un poignet d'intellectuels qui ont préféré utiliser, disons, leur non-participation comme un atout ou bien comme une arme de déstabilisation du système en place. Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on a des élections législatives en 2023 auxquelles il n'y a pas de nouvelles réformes en vue, si je ne me trompe pas. Donc, il se fait que tout le monde participera sans doute à ces élections, sauf ceux qui ne se seraient pas préparés. Mais il n'y a pas de raison qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Il n'y a pas de raison. En tout cas, moi, je ne suis pas un gouvernement, je ne suis pas le président de la République, mais dans la logique des réformes et dans la logique de la durabilité des réformes et de la fin de ce système où on fait un pas en arrière, un pas devant, deux pas en arrière, il est important que les réformes choisies et votées et qui sont implémentées et qui ont montré leurs preuves aujourd'hui puissent se poursuivre. Donc, dans 2 ans, tout le monde connaît la règle du jeu, tout le monde participera aux élections a priori, et donc, normalement, pour les élections générales de 2023 et de 2026, chacun devra pouvoir valider ses parrains lors des législatives de 2023.
Mais en attendant, je voudrais quand même vous entendre sur ce mandat social dont parle le président Talon. Est-ce qu'il peut faire réaliser des actes concrets dans le domaine social, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, sans tenir compte de ses autres leaders qui sont quand même des leaders politiques et qui ont une oreille, qui ont des partisans dans le pays? Est-ce que cela ne va pas leur créer des problèmes, dit de façon claire?
Si on a besoin des actes sociaux, ce n'est pas les leaders politiques, ils sont dehors.
Ils ont des partisans.
Ce sont les populations, ce sont les citoyens, c'est les 12 millions de Béninois, c'est eux qui ont besoin d'action sociale, c'est eux qui ont besoin de l'éducation, c'est eux qui ont besoin d'infrastructures routières, c'est eux qui ont besoin, par exemple, les enfants de ces populations, c'est les plus jeunes qui ont besoin de cantines scolaires. Donc les mesures sociales
dont le président a parlé, ne sont que la résultante des efforts et des réformes qui ont commencé et qui vont se manifester sur le terrain et bientôt. Donc, c'est eux qui ont baissé, c'est pas la classe, c'est pas la pointe intellectuelle qui déstabilise le système et qui a envie de se substituer au système. C'est pas eux qui ont besoin des mesures sociales. Donc, vous comprenez que vous verrez, et en suivant l'actualité béninoise avec beaucoup d'attention, vous suivrez dans les mois à venir que progressivement, cette situation que vous parlez de crise politique ou bien de... Vous verrez bien que progressivement, ça va se tasser dans la mesure où les réformes maintenant sont peut-être derrière nous. Elles ont été toutes implémentées. Tout ce qui est contesté a été implémenté. Et donc, du coup, le Bénin entame une nouvelle page de son histoire politique.
Voilà. Je ne sais pas si on a retrouvé notre confrère.
Malheureusement, pas encore.
D'accord. On va terminer en quelques mots avec notre grand témoin, M. Moussa Mara. Quand on écoute M. Mara, Agapit, le sentiment, c'est qu'on risque s'acheminer pour le second quinquennat de Patrice Talon ce à quoi on a assisté dans le premier, c'est-à-dire le second quinquennat peut être heurté et tendu.
Bon, je crois que notre ami est un journaliste, il n'est pas dans l'équipe du président Talon, il donne son opinion. Moi, je me fie au discours du président. Et dans le discours du président, il a bien parlé de réconciliation, il a parlé d'apaisement, et voilà. Donc, je pense qu'il est conscient quand même que le mandat a été heurté. Et comme il est soucieux de laisser une place dans l'histoire, il voudrait sans doute pas qu'à la fin de son second et dernier mandat, que la situation soit aussi conflictuelle, qu'elle soit davantage apaisée, pour que le successeur qui viendra prendre le pays puisse le conduire encore plus haut que ce que lui il a fait. Ses réalisations sous certains aspects sont vraiment remarquables. Moi j'étais à Cotonou il y a encore 2 mois, j'ai vu beaucoup de choses. Donc s'il a cette conscience-là, et il devra sans doute poser des actes qui vont dans le sens de la réconciliation. Est-ce que ce sera des gouvernements, est-ce que ce sera d'autres types d'actes? On le verra bien. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite pour ce pays frère.
Saint-Tige, je m'en voudrais de ne pas poser cette question à notre confrère vraiment avec une réponse courte. On parlait de la suppression du ministère de la Communication à Agapit et désormais les médias vont être gérés par la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Qu'en dites-vous? Qu'en pensent les journalistes au Bénin?
Vous avez été conseiller de la HAC à une période donnée, Agapit.
Allô, Agapit?
Bon. Je suis d'accord avec le Premier ministre, votre invité principal, parce que par rapport aux actions, c'est pas nécessairement...
Non, je posais la question sur la HAC, s'il vous plaît. On n'a plus le temps. La HAC qui va désormais gérer les médias, est-ce que c'est une bonne chose et quel est l'avis des journalistes béninois?
Disons que l'information, elle est vive, elle est nouvelle, elle a pris tout le monde de court, quoique la HAC était déjà l'institution républicaine créée par la Constitution du 11 décembre 1990, comme l'organe qui protège la liberté, qui garantit et protège la liberté de presse en République du Bénin.
Mais très décrié aussi.
Les pouvoirs de la HAC étaient déjà des pouvoirs de ce pouvoir. Le président Talon a juste décidé de retourner ses pouvoirs à la HAC et que le gouvernement s'occupe de la question de sa propre communication, mais que les autres pouvoirs des gérants de gestion des médias retournent à la HAC. Ça a supprimé la classe, ça laisse beaucoup de journalistes dubitatifs. Je trouve que c'est une très bonne décision pour arrêter à la HAC. Maintenant, il faut attendre de voir un peu les liens, les arrangements de gestion ou institutionnels pour savoir comment ça va se faire. Mais c'est une très bonne décision.
Voilà. Saint-Tige, sans transition, encore 7 petites minutes pour parler du dernier sujet avec vous.
Et Paris et Kigali qui matérialisent leur rapprochement avec, en semaine, la visite du président français dans la capitale rwandaise, Emmanuel Macron, qui a reconnu à cet effet des responsabilités, mais pas de complicité de la France dans le génocide rwandais. Il a déclaré, et je cite ces mots, « En me tenant avec humilité et respect à vos côtés, je viens reconnaître nos responsabilités. » Un acte courageux, selon son homologue rwandais Paul Kagame, qui a répondu, et encore citation, « Ses paroles avaient plus de valeur que des excuses, elles étaient la vérité ». Et pour marquer la normalisation des relations entre les deux pays, on annonce la nomination prochainement d'un ambassadeur français à Kigali. Et au volet économique également, on annonce des partenariats qui vont être noués. Le rapprochement de Paris et de Kigali semble donc être en très bonne voix. Agapit, je vais commencer par vous sur ce sujet. À qui profite le plus ce rapprochement entre la France et le Rwanda, selon vous?
À mon avis, aux deux pays, et beaucoup plus à la France, sans doute, mais pas non plus à Kigali, parce que je pense qu'il était un peu en perte de vitesse du côté de ses parrains historiques, et donc du coup, la France apparaît aujourd'hui comme un nouvel allié sur le plan international. Donc déjà, avec l'élection, donc, au niveau de l'Organisation générale de la francophonie, on a vu qu'il y a une sorte d'assouplissement un peu de position. Et donc, clairement, la situation actuelle profite aux deux. Mais le président Macron a réalisé un énorme succès diplomatique, mais le président Kagame se repositionne au niveau des relations internationales. Et donc, la nomination d'un diplomate, la normalisation des relations diplomatiques, la nomination d'un ambassadeur, tout ça entre en ligne de compte. Je pense que ça profite naturellement à la France.
Vous pensez que la France, en redorant son image avec le Rwanda, qui est quand même l'un des champions en matière de développement, en tout cas cité comme l'un des pays en avance en matière de développement, est-ce que la France peut reconquérir quelques autres pays où elle a perdu de l'influence? On parle de la RCA, par exemple.
Exactement. Vous voyez la position de Kigali par rapport déjà à la RDC et à toute la région. Je pense que tout ce qui s'est passé ces 30 dernières années n'est pas étranger un peu à la position stratégique donc de Rwanda et donc des autres pays. La RDC et toute cette région, la France n'avait plus réellement prise. Et je pense qu'avec une normalisation des relations avec Kigali, il y a une possibilité pour que la France, effectivement, de reconquérir, et tout, en tout cas de se repositionner, notamment, vous avez parlé de la RCA, mais on peut parler de la RDC aussi, qui se cherche, et avec la situation actuelle qui n'est pas peut-être plus stable, même si elle paraît assez calme. Donc, je pense que sur le plan diplomatique, c'est un très bon coup. Et pour la France, c'est un très bon goût diplomatique.
Deux questions peut-être pour le Premier ministre. Alors, cette polémique sur les excuses ou le pardon de la France, qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Marin?
C'est une question qui est très ancienne. Et la France a la particularité que des débats souvent sur des mots prennent des années et deviennent très sensibles. Vous savez, aujourd'hui, simplement, l'Allemagne a présenté ses excuses à la Namibie pour avoir commis ce que l'Allemagne même a reconnu comme un génocide en Namibie. Bon, on peut dire que selon les rapports de la commission Duclair, ce rapport, je l'ai lu, hein, il fait plus de 1000 pages, et puis selon d'autres acteurs, la France ne peut pas être accusée de complicité, même s'il y a eu des responsabilités très très lourdes et aussi beaucoup de faiblesses et beaucoup d'erreurs.
C'était aussi une erreur de ne pas demander des excuses, s'il vous plaît, en deux mots.
Non, je me fie simplement à la réaction du président rwandais et j'ai regardé un peu les réactions de la société civile rwandaise. En grande partie, ils sont satisfaits de ce qui a été fait. Certains regrettent toujours qu'il n'y ait pas eu d'excuses présentées. Mais le plus important, c'est que tout le monde regarde de l'avant. À mon avis, il faut regarder de l'avant le nouvel ambassadeur, le nouveau projet. La question de la langue, parce que le Rwanda n'est pas un pays anglo ou francophone. Aujourd'hui, le Rwanda est un pays bilingue. Donc la langue française a aussi un rôle à jouer. Sur tous ces segments, il y a des projets et des initiatives. Il faut regarder de l'avant et sortir progressivement de cette difficulté mémorielle.
Et il y a aussi le fait qu'on n'a pas abordé les questions qui fâchent, comme les droits de l'homme ou le traitement des opposants par Kigali, parfois critiqué par les associations des droits de l'homme. C'est comme si la France, quand elle le veut ou lorsque la réelle politique l'impose, peut fermer les yeux ou surtout la bouche sur ce type de sujet.
Ça, je pense que vous n'avez pas besoin de ma réponse pour le savoir. Les pays n'ont pas d'amis, en réalité. Les pays ont des intérêts. Et quand l'intérêt d'un pays le recommande de regarder ailleurs, ben le pays le regarde ailleurs. Et d'ailleurs, il faut
nous
le comprenions enfin. Nous comprenions enfin que souvent l'indignation est à géométrie variable. Souvent, les critiques sont à géométrie variable, les diagnostics sont à géométrie variable. Il est temps que sur notre continent, nous comprenions cela et que nous apprenions à travailler selon nous aussi nos intérêts stratégiques et nous arrêtions à regarder dans la cour des autres.
Liliane, j'ai une dernière question pour le Premier ministre.
Le temps, vraiment, on n'a plus le temps, je suis désolée.
Ben, allons-y.
On va écouter à présent les réactions de nos auditeurs.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat_bbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/débat_bbcafrica.
Bonjour Liliane, bonjour Saint-Tiche, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Mali et Charles Bazema demandent à notre grand témoin si la classe politique et la population malienne n'ont pas eu tort de faire partie IBK. Pour Alafi Bokassa, il faut laisser la junte diriger la période de la transition pour conduire le pays vers une élection libre, transparente et apaisée où un civil sera démocratiquement élu. Bénin, pour Jean Zounon, le nouveau gouvernement a beaucoup de priorités. Le social, la réconciliation, la libération des prisonniers politiques, revoir les lois qui fâchent et permettent que tous les Béninois et Béninoises en exil rentrent pour contribuer au développement durable du Bénin. Voilà tant de défis qui attendent le nouveau gouvernement de Patrice Talon, selon notre internaute. Rwanda, Guilain Mupanda, Ghislain se demande si la France ne ferait pas mieux d'indemniser les nombreux Rwandais victimes du génocide. Merci à nos nombreux internautes pour leur fidélité. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/lebat_bbcafrique-africaradio et sur Twitter à @debatbbcafrique. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous, Didier Ladislas Londo, et merci beaucoup. Alors, Monsieur le Premier ministre, en quelques secondes, un mot de conclusion, peut-être en répondant à cet auditeur qui dit qu'il souhaite qu'on laisse la junte terminer la transition au Mali jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'aux prochaines élections.
Non, moi, je ne le souhaite pas. Ce serait un dangereux précédent et surtout, on risquerait d'avoir une transition totalement chaotique. À mon avis, on était assez bien partis ces derniers temps. Essayons de retrouver le cours normal de la transition avec des civils, avec la présence militaire, et terminons cette période par le haut et de manière heureuse pour notre pays. Mais comme je vous l'ai dit, hein, j'y crois, je suis optimiste, ça va être difficile, ça va être un peu saccadé, mais on en sortira, Inch'Allah.
Merci beaucoup à notre grand témoin Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali. Vous étiez notre grand témoin cette semaine en île de Bamako. Merci au journaliste Pape Alioune Sarr de ITV à Dakar au Sénégal et Agapit Napoléon Maforikan, qui est directeur de la télévision télé à Cotonou au Bénin et également analyste politique. Réalisation de cette émission à Dakar, Abdou Diop. À Paris, Hugo Vallière, chargé de production, Didier Ladislas Londo. Votre émission est à retrouver sur africaradio.com et bbcafrique.com et vos avis attendus sur la page Facebook, facebook.com/debat_bbcafrica_radio. Saint-Tiche, merci à vous et
merci.
Bon week-end à vous et à nos auditeurs.